Europe 1.
Nous accueillons Lionel maintenant sur la libre antenne. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Olivier, bonsoir.
Bonsoir. Alors Lionel, nous sommes parlé hier soir pendant une dizaine de minutes. Vous nous avez fait part de la séparation que vous avez vécue au bout de combien en fait de
28 ans de vie commune.
28
avec
ans de vie commune.
Enfants.
Voilà. Et au départ des deux enfants, vous nous avez dit que ça avait été extrêmement dur et que bien évidemment ça avait été vraiment très très compliqué pour vous de vivre cette séparation. Donc il y a bien évidemment eu un moment très compliqué pour vous à l'approche de ce du départ des enfants et vous l'avez tellement mal vécu que vous êtes tombé dans une addiction à l'alcool dans un premier temps. Vous buviez le soir hein, essentiellement quand vous rentriez à la maison vous avez décidé de prendre votre moto un soir que votre maman vous avait appelé plutôt que de prendre la voiture que vous étiez en état d'ébriété avancée. Malheureusement, je dirais, cet accident de moto s'est révélé très grave puisque vous avez eu 22 fractures. C'est un accident très grave. Vous auriez pu perdre la vie. Vous êtes rentré dans une maison. Hier soir, je vous ai dit que nous reprendrions cette discussion aujourd'hui parce que il y a dans votre histoire plusieurs choses. Il y a d'abord le couple hein, qui, au bout de 28 ans, malheureusement, ne va pas résister malheureusement à au départ des enfants. Ça, c'est quelque chose auquel vous vous attendiez à l'époque. Est-ce que vous aviez anticipé cela? Est-ce que vous en aviez déjà parlé avec votre femme? Ou finalement, est-ce que c'était quelque chose finalement tout roulé, puisque vous m'avez dit hier soir très bien vous entendre avec votre femme, donc c'était quelque chose que vous n'aviez pas visiblement préparé?
Mais alors, pas du tout, parce que ça nous est tombé assez vite, parce que ces petits ont fait le grand, il a 25 ans et le petit 21 ans. Le grand a fait des études et il a fait une licence et le petit a fait un BTS et après il a fait son concours de gendarmerie et en fait ils sont partis tous les deux en même temps. Et on s'est retrouvés mon ex-compagne. Vraiment, ça nous est tombé vraiment très rapidement. Et en fait, on était triste, vraiment très très triste, parce que le grand est parti faire sa vie. Il a pris une maison, un appartement, enfin il est parti. Et le grand est monté dans le nord de la France. Et on s'est retrouvés tous les deux. Ce qui nous était jamais arrivé depuis la naissance des enfants, depuis 25 ans, quoi. Et en fait, on était triste. Moi, je ne travaillais pas à l'époque, parce que je m'étais blessé au niveau du dos, donc j'étais en maladie. Et quand ma compagne rentrait, elle, du travail, eh bien, on arrivait à s'engueuler, alors qu'on ne se voyait pas de la journée, et on ne se supportait plus. Mais non, on n'avait pas du tout prémédité ça, ça nous est tombé comme ça dessus, on ne se supportait plus.
Et ça se traduisait comment, par exemple, le fait de ne plus se supporter?
Mais en fait, on se faisait des reproches.
Oui.
Alors moi, admettons, elle rentrait, je préparais à manger, et elle me reprochait, admettons, de l'attendre trop tard, parce que moi j'avais besoin, comme je ne travaillais pas, j'avais besoin de parler à quelqu'un, et elle était fatiguée de sa journée, elle voulait juste se doucher et aller au lit, et moi j'attendais, je disais, mais non, du coup c'était des engueulades vraiment... pour rien du tout, mais c'était juste qu'on se supportait plus, quoi. On ne vivait plus de la même façon. C'est-à-dire que moi, avant, je m'occupais des enfants, je les faisais manger, je m'occupais d'eux, du sport, tout ça. Elle avait son travail, puis d'un seul coup, boum, ça a changé un petit peu nos habitudes, en fait. Et voilà, on s'est séparés. Mais c'est même moi qui ai demandé la séparation,
C'est vous qui l'avez demandé? C'est vous qui l'avez demandé?
Ouais, c'est moi, ouais, c'est moi. C'est moi parce que, en fait, ça me rendait triste de vivre ça, et je pensais que me séparer, ça allait aller mieux. Peut-être même, je voulais peut-être faire juste un break. J'avais pensé à ça au départ.
Oui.
Mais en fait, non. Non, on s'est séparés. Et là, pour moi, ça a été la descente aux enfers. Quoi. C'était 2022-2023, ça a été les années les pires de ma vie. C'est la séparation, en fait.
Vous vous êtes retrouvé tout seul face ouais, à vous-même, en fait. Hein, plus d'enfants.
Exactement.
Plus d'enfants, plus de femmes, plus de. C'est très dur, la séparation. Hein. Il faut vraiment le vouloir, vous voyez.
Ouais.
Il faut vraiment, lorsqu'on se sépare, bien évidemment, quand je dis le vouloir, c'est-à-dire avoir bien réfléchi. Et souvent, malheureusement, hein, souvent, on ne réfléchit pas aux conséquences de la séparation.
Ah mais non, pas du tout. Parce que moi, j'ai pris un appartement dans le même village. Mais moi, j'étais sûr de moi. J'ai dit, ça va aller mieux. Mais non, c'était pire. Parce que je m'étais jamais retrouvé seul. Et elle me manquait terriblement. C'est, après, quand à la suite, j'ai vu un psy, on m'a dit que j'étais dépendant affectif, en fait. Donc...
vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de ça? Que vous êtes dépendant affectif, c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Oui, j'en suis. C'est clairement ça dans ma vie. J'ai toujours été dépendant affectif. J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés, quelqu'un que j'aime. Voilà, mes enfants me manquaient, elles aussi. Et en travaillant sur ce sujet-là, on m'a dit que j'étais dépendant affectif. Mmh. Voilà, et que j'étais hyper sensible. En fait.
Souvent, on a du mal, hein, lorsqu'on est un homme, à entendre ce type de choses. Beaucoup d'hommes ont du mal avec cette réflexion. Du fait d'être hypersensible, c'est synonyme vrai. De fragilité. Or, être hypersensible, vous voyez, moi je le suis, et ça n'est pas obligatoirement une, enfin c'est ça n'est pas une
être faible quoi.
Être faible, c'est une qualité, je trouve, d'être.
Mais je l'ai appris. Après, parce que moi je dis hypersensible, oui, c'est vrai que c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en tant qu'homme. En fait, puisque nous, on a la
responsabilité
d'une famille, vous savez, voilà, c'est ça. Et quand on m'a mis des mots comme ça, j'ai compris pourquoi je souffrais autant. Et du coup, moi je me suis retrouvé tout seul et je me suis mis dans la boisson à boire. De manière mécanique.
Qu'est-ce que vous buviez?
Alors, c'était de la bière, beaucoup de bière,
ouais, de
et
bière.
Du vin.
D'accord.
Ouais. Mm-hmm. Je mélangeais les deux, vin, bière, jusqu'à être sous à tomber par terre. Quoi. Ouais. Et en fait, j'étais bien au travail, mais dès que je me retrouvais seul, c'était fini. Là, c'était. J'assumais pas du tout. De plus voir mes enfants, plus voir mon ex-compagne, et je me trouvais seul, et en fait, seul avec moi-même, comme vous le disiez.
Oui.
Et du coup, ben voilà, quoi, je buvais. Et un jour, ben voilà, en 2022, si vous voulez, en 2020, j'ai été voir une comédie musicale à Londres avec ma compagne, et c'est une comédie musicale, je suis vraiment tombé sous le charme de cette. Comme il dit, je suis pas. Hein, on ne ressort pas. On ne ressort pas.
Indemne.
J'ai été très très ému par cette comédie.
Oui.
Et en fait, quand je me suis séparé, j'ai dit, je vais postuler pour aller travailler là-bas parce que ça m'avait fait du bien de le voir.
Oui.
Et en fait, j'ai été pris et ça m'a vraiment fait du bien de travailler avec eux.
Très bien.
Et du coup.
Alors, vous savez quoi, on va marquer une petite. On va rester là dans votre histoire. On va marquer une petite pause pour laisser l'info passer. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes. D'accord?
D'accord.
À tout de suite, Lionel.
À tout de suite.
Il est 23h passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter, chers amis, nous sommes très heureux de passer tous ces moments avec vous, toutes ces soirées. Donc vous le savez, nous sommes là pour vous, alors n'hésitez pas. 01 80 20 39 21, Julia, Florian et Laurent. Notre réalisateur vous attend ici et attend vos appels. Nous sommes avec vous, Lionel. Nous évoquons ce soir cette séparation et puis cette descente aux enfers. Vous nous expliquez, Lionel, que vous aviez donc vu cette comédie musicale et vous avez décidé de postuler pour cette comédie musicale. Mais vous m'avez parlé de Lourdes hier soir parce que cette comédie musicale allait se jouer à Lourdes.
Alors en fait, c'est une comédie musicale qui raconte la vie de Bernadette Soubirous. Alors, il n'y a rien de catholique dans cette comédie musicale, c'est juste ils évoquent les apparitions de la petite Bernadette Soubirous.
Oui, oui, oui.
Et donc, en fait, ils ont retracé toute sa vie et ils l'ont mis, je crois que c'est Lionel Florence qui a fait les textes et Grégoire qui a fait la musique. Ils ont mis ça en scène et ils ont reproduit la grotte de Lourdes dans la salle. Et voilà, ils ont juste raconté l'histoire de cette petite fille. Et c'est vraiment excellent. J'ai même des amis à moi qui sont pas du tout catholiques, qui sont même d'autres communautés, enfin d'autres religions. Mmh. Je les ai amenés et ils ont été complètement... abasourdis de voir qu'ils sont sortis émus, quoi. Donc, c'est génial. D'ailleurs, elle est en tournée dans toute la France en ce moment.
Oui.
Parce qu'au début, elle était qu'à Lourdes et maintenant, ils sont en tournée, quoi. Et malheureusement, bah, j'ai pas pu le partir avec eux, ce qui est mon grand regret aujourd'hui, quoi. Mais, ouais,
parce que, alors, bah, vous n'avez pas pu, non, je l'ai pas vu, mais vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu partir en tournée avec eux. Pourquoi? Oui. À cause de l'accident?
Oui, c'est ça.
D'accord.
En fait, je travaillais. Moi, je ne suis pas du tout acteur, ni musicien, ni chanteur.
Hein. Oui.
Je m'occupais du placement des gens où je flashais leur ticket d'entrée. Vous voyez, je travaillais avec eux.
Ouais, vous étiez un peu plus dans le côté régie, en fait.
C'est ça, c'est ça. Alors, moi, je crois que j'avais un petit contrat de 3 heures, mais j'ai resté 10-12 heures par jour, tellement j'adorais travailler avec eux. Et voilà, je prenais même des affiches, je les placardais dans tout le département, je voulais que tout le monde me la voie. Je prenais des flyers, je les mettais dans tous les... Dans toutes les villes, partout. J'essayais de le faire connaître, tellement c'était génial, quoi. Ouais. Ça m'avait fait du bien. Mais je continuais quand même à voir.
Bon, et vous continuez continuez à voir. Parce que le soir, vous étiez bien évidemment seul. Seul.
C'est ça. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai resté au maximum de temps. On se demandait pourquoi j'ai resté autant de temps. Parce que j'avais peur de rentrer chez moi. Et parce que je savais que j'allais pas être bien.
Ouais.
Et ça, donc, c'était en mars. Et malheureusement, en avril, encore un souci. Ma maman m'appelle, me dit que mon père est hospitalisé.
Oui.
Parce qu'il a des problèmes respiratoires. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et deux jours après, il est décédé.
Oh,
il a fait une infection pulmonaire. Alors je lui dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc la séparation, mon papa qui s'en bat. Et donc, bien sûr, mais... ça m'a pas du tout j'allais plus du tout bien, donc je buvais encore plus et malheureusement en rentrant du travail au mois d'août en montant chez ma mère pour la voir, j'ai eu ce grave accident de moto.
Oui.
Et qui m'a coûté très très cher, quoi. Très très cher.
Oui, bah vous m'étonnez qu'il vous a coûté très très cher.
Ah oui, oui, oui. Et pendant que j'étais hospitalisé au centre à Bagnères, donc de Bigorre, j'ai la mère de mes enfants qui venait régulièrement me voir quand même. Vous voyez, on était séparés, mais on s'entendait bien. Et elle venait tout le temps me voir, tout le temps, tout le temps. Et j'ai même cru à la sortie, j'aurais pu peut-être me remettre avec elle, si vous voulez. J'y croyais.
Ah
parce
oui,
que là, j'étais...
Oui,
oui. Bien sûr, comme j'étais à l'hôpital, j'étais plus du tout sous l'emprise de l'alcool. Et je suis sorti donc en février 2023. Et je lui ai demandé si on pouvait se remettre ensemble. Et là, elle m'a dit qu'elle avait appris à vivre seule pendant un an.
Oui.
Et qu'elle ne voulait pas se remettre avec moi, qu'elle était bien seule. Voilà. Alors là, redescendre aux enfers.
Dégringolade.
Et je suis ouais, je suis reparti dans l'alcool. Dans l'alcool. Et là.
C'est fou parce que vous n'aviez pas une tendance à l'alcool avant du tout, Lionel.
Et pas du tout. Aucune. Non. Pas du tout. Non. J'arrivais pas à gérer mes émotions. Et en fait, je buvais pour oublier, partir au lit et vite passer à autre chose, quoi. C'était le travail, boire et dormir.
Ouais,
c'était une escalade de bêtises incroyables. Et en plus, mes enfants, que j'adore, mais se sont un peu tournés de moi. Ils me comprenaient pas. Ils passaient plus me voir à la maison. Je les croisais, ils me disaient juste bonjour, mais aucun dialogue. Donc là, c'était de pire en pire. Et je les voyais que le dimanche au rugby, quoi. Mais c'était juste bonjour et c'est tout. Là, c'était terrible, terrible. Je ne savais plus comment m'en sortir, quoi. Et justement, juste avant l'accident, 4 jours avant, je me suis rendu dans un centre d'addictologie.
Oui.
Et je leur ai dit que je basculais sur une pente un peu glissante et dangereuse parce que je sentais que j'arrivais pas à le contrôler, si vous voulez.
Oui.
Bon. Malheureusement, j'ai eu cet accident et j'ai repris après en sortant de l'hôpital, j'ai repris bien sûr la boisson et je me suis rendu au centre d'addictologie donc un an après. Et je leur ai dit faut m'aider, mais on trouvait pas, on pédalait un petit peu jusqu'au jour d'octobre où j'écoute la Libre Antenne et là ça a changé ma vie. Ça, vous avez changé ma vie, Olivier, et cet auditeur dont je ne connais même pas le prénom. C'était en octobre ou novembre. J'étais dans mon lit et j'écoute cet auditeur qui a des problèmes d'alcool. Mais alors lui, le pauvre, c'était sévère parce que je pense qu'il avait bu pendant 40 ans de sa vie.
Ah oui, oui.
Et il avait fait plusieurs cures. Qui n'avait pas eu de succès, si vous voulez. Ils replongeaient à chaque fois. Ils parlaient de craving. Alors je l'ai cherché sur Internet. C'est des pulsions irrévocables. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller boire. En fait, ils appellent ça un craving. C'est anglais,
je prends souvenir de lui. Il avait de gros problèmes de santé en plus, hein, de foie.
Oui, c'est ça.
Oui. Un monsieur de Bretagne, je crois. Il me semble me souvenir qu'il
oui.
était de Brest.
Mais disons qu'elle est morte.
Ah mais j'ai une mémoire d'éléphant.
C'est ça.
Ça me rassure beaucoup.
Ah oui, non,
beaucoup.
Mais c'est ça.
Oui, oui.
Mais non, mais c'est vrai.
J'écoute, hein. Quand je dis j'écoute. Je me souviens très bien de ce monsieur qui nous avait appelé et qui était sobre depuis 2 ans, je crois. Il avait enfin réussi.
Voilà, oui. Tout à fait. Mais dis donc, mais ce monsieur, avec vous m'avez énormément aidé. Puisqu'il parlait de ses cures et qu'il replongeait, que ça marchait pas.
Et finalement, il avait tout perdu, cet homme.
Ah ouais, lui, tout perdu. Lui, pire que moi même. Son médecin, un jour, lui propose un médicament que l'on appelle le médicament du dégoût. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ingère ce médicament, eh bien, en fait, on ne peut plus boire d'alcool. C'est-à-dire que dès qu'on ingère un verre d'alcool, eh bien, on peut avoir une espèce de tachycardie, enfin le cœur qui s'accélère, une baisse de tension devient rouge, on peut tomber dans les pommes. Enfin, il y a une multitude d'effets secondaires qui peuvent être très graves. Mm-hmm. D'ailleurs, à la suite de votre émission, moi j'en ai parlé, moi, à mon médecin, j'ai dit je veux ce médicament parce que je suis pas assez, j'ai pas assez de caractère pour éviter d'aller en chercher de l'alcool. Et je pense que ce coup de pied aux fesses, c'est ce médicament qu'il me faut. Et alors, donc, on ne le donne pas comme ça. Donc, j'ai dû voir un psy et des prises de sang pour voir si ce médicament, si mon foie pouvait l'accepter, si vous voulez. Et donc, toutes les analyses ont été bonnes. Et depuis le 18 janvier, où c'est que j'ai commencé ce médicament,
oui.
Eh bien, j'ai arrêté de boire. Je suis sobre depuis le mois de janvier. Et ma vie a complètement changé, quoi. Moi, j'y croyais pas. Et vraiment, c'est pour ça, en fait, que j'avais appelé, juste pour vous dire merci. Parce que c'est grâce à vous. Et aujourd'hui, je suis un homme pétillant. Je suis un homme en pleine forme.
Quel bonheur
qui a retrouvé le sourire. Ouais.
Mm-hmm. Magnifique.
Mais mon Dieu, que l'alcool, c'est un fléau.
Ah, c'est terrible.
C'est terrible. Ça change un homme.
Ah, c'est terrible.
Oh. Ah ouais.
L'alcool, c'est terrible, Yonel. Je pense que, bien évidemment, on parle de la cocaïne et de l'héroïne, mais d'abord, on parle du premier fléau. Hein, on parle du premier fléau, la première addiction, hein, puisque la France, étant un pays en plus à tradition de bonne chair, de tout ça, il y en a partout de l'alcool. Et puis je vois.
Le problème, c'est la libre accès à ce produit.
Ah, mais vous savez, là où j'habite, je vois. Dans un supermarché où je vais faire mes courses, je vois le nombre de personnes qui achètent des flashs de vodka, de whisky, tous les soirs, là. C'est terrible. C'est terrible.
Ouais.
Et on est en train d'avoir une politique, si vous voulez, aujourd'hui, de punition des consommateurs de drogue. Mais la première des drogues, et qui est aussi terrible que la cocaïne, que l'héroïne, c'est l'alcool. Je peux vous dire que, vous le savez, vous qui êtes passé par là, on n'a rien, enfin, quelqu'un qui est malade d'alcool n'a rien à envier, vraiment rien à envier à celui qui est accro aux autres drogues. C'est fou, mais c'est malheureux. C'est malheureux.
Oh là là, ah ouais. Et c'est incroyable les dégâts qu'on peut faire autour de soi, parce qu'en fait, on se détruit. Et mes enfants l'ont vu, et ma mère l'a vu. J'ai fait beaucoup de mal à ces personnes-là. Mmh,
mmh. Mais c'est à vous. C'est à vous que vous avez fait du mal en premier, vous savez.
Ouais.
Voilà.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et ça, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier.
Non, c'est vrai. Ouais.
Mais oui.
Mais par contre, maintenant que je ne bois plus, mes enfants sont revenus me voir.
Bah,
je
oui.
les vois pratiquement tous les jours. Avec mon ex-compagne, on se voit, on boit le café ensemble, on s'entend bien. J'ai changé de vie. Je suis tellement bien. Et c'est génial. Je ne remercierai jamais assez Europe 1, ce monsieur et vous, bien sûr.
Oui, mais remerciez-vous vous-même en premier, Yonel, parce que vous savez, c'est important. Dans ce que vous avez vécu, de vous remercier, vous, en premier, et d'être fier de vous, parce que vous revenez de très, très loin. Et ça, c'est vous qui l'avez fait, ce chemin. C'est vous qui l'avez gagné, cette bataille. C'est ça qui est extraordinaire.
C'est vrai que mon médecin me dit les mêmes choses.
Ah bah oui.
Il est fier de moi, il me le dit tous les jours.
Oui, oui.
On dirait que j'ai gagné une compétition presque.
Mais oui, mais c'est une compétition.
C'est un combat. Hein.
Ah mais oui, c'est un combat.
Ouais.
C'est un combat énorme. Vous savez, si vous écoutez la Libre Antenne, vous voyez le nombre de personnes qui nous appellent et qui ont encore cette problématique. Je pense à Farid qui nous a appelé l'autre jour, accro à l'alcool et aux benzos. Ce qu'on appelle des benzos, c'est tous ces médicaments contre l'angoisse et tout. C'est extrêmement difficile de se sortir de là. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et malheureusement aujourd'hui, cette addiction est l'une des pires qu'il y ait. L'une des pires qu'il y ait.
Oui. Et en plus, on a un peu honte d'en parler. C'est un peu tabou. Moi, je voyais les gens qui, comment on appelle ça, en groupe de parole, souvent, ils venaient dans les centres d'addiction pas par choix. C'est parce qu'ils tombaient soit malades et ils arrivaient en cure, ou alors c'était la justice qui leur demandait.
Oui. Et, parce que malheureusement, en plus... Oui, allez-y, pardon.
En fait, on me disait que c'était extrêmement rare. Enfin, j'étais un cas un peu rare de vouloir faire la démarche de moi-même. Mm-hmm. C'est souvent... c'est pas leur choix, eux. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pas, des fois. Si on l'a pas dans la tête, ils venaient malgré eux, quoi.
Ouais, ouais. Puis souvent, on vient dans ces centres, comme vous dites, contraints parce qu'on a une injonction de la justice, parce qu'on a eu un accident de voiture, parce que on a été violent avec sa femme ou ses enfants. L'alcool, vous le savez, hein, l'alcool modifie le comportement, malheureusement. Et, c'est terrible, terrible. Bon, mais ça, c'est génial que vous ayez réussi ce combat, comme vous dites. Alors, vous dites qu'aujourd'hui tout va bien. Tout va bien, donc aujourd'hui c'est...
Ouais, je suis heureux.
Ouais, vous êtes heureux, vous...
Il y a juste un truc qui me manque. J'aimerais, c'est retravailler pour cette comédie musicale. Mm-hmm. J'aimerais, si y a un des deux producteurs qui m'entend, moi je postule, il n'y a pas de souci, je reviens avec eux.
Mm-hmm. Mais vous avez repostulé plaisir. Vous avez repostulé, justement?
Non, pas encore, non. Mais non, je ne l'ai pas fait.
Faites-le.
C'est compliqué d'avoir c'est Roberto Cuirlo et Léonore de Galard qui s'occupent de ça, mais j'ai pas du tout leur numéro, je sais même pas comment faire.
Ah oui.
Et je sais pas comment postuler. Je l'avais fait quand ils étaient à Lourdes, j'avais été les voir, c'était plus facile. Maintenant qu'ils sont en tournée, je sais pas du tout comment faire.
D'accord.
Voilà.
Parce que ils étaient à Lourdes et vous êtes passé les voir à Lourdes. C'est ça?
Oui, directement, j'ai été au culot, ouais. Je suis tombé devant Roberto Cuirlo, qui est producteur de comédie musicale, qui avait travaillé, je crois, en Énergie. Et j'ai été le voir. C'est quelqu'un de formidable. Et je lui ai posé la question, il m'a dit, mais bienvenue. Mais comme ça, ça s'est fait comme ça. Et après, avec l'accident, j'ai plus eu aucun contact. J'ai perdu contact avec eux et je ne sais même pas comment postuler pour aller les revoir. Quoi. Ça serait génial, mais je vais essayer de chercher, je vais bien trouver. Hein.
Oui, vous allez les trouver. Et puis, si ça se trouve, l'appel que vous lancez ce soir va être entendu, hein, vous savez.
Ça serait tellement bien.
C'est comme ça,
vraiment, ça
c'est comme
chouette.
Ça qu'on. C'est comme ça que les choses se font. Vous savez, quand on arrête de boire, quand on. Quand on revient dans la vie, eh bien finalement, on s'aperçoit que tout est plus facile. Tout est plus facile. Tout est.
Ouais, c'est vrai.
Mais vraiment, hein. Il faut bien que celles et ceux qui sont encore dans cette addiction et qui nous écoutent ce soir le saisissent. Quand on ne boit plus d'alcool, quand on ne se drogue plus, tout devient plus clair. Et la vie, c'est clair. Moi, je vais vous dire, au Narcotique Anonyme, on m'avait promis une chose, c'est que si je devenais abstinent, eh bien, il y aurait plein de choses qui se passeraient dans ma vie, de belles choses, de bonnes choses. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est vrai ?
Mais oui. Quand vous arrivez aux Alcooliques Anonymes ou aux Narcotiques Anonymes, d'abord vous êtes la personne la plus importante. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que nos quatre nouveaux membres que nous accueillons dans cette communauté de la Libre Antenne sont les plus importants. C'est toujours les petits derniers qui sont importants et qu'il faut accueillir. Et puis, la chose qu'on vous dit, c'est que si tu continues, tu finiras à l'hôpital, dans le meilleur des cas, ou en prison, un autre meilleur des cas, ou au cimetière. Par contre, si tu arrêtes, si tu deviens abstinent, on te promet que tout va s'éclairer. Vraiment, les choses s'éclairent au fur et à mesure. La vie vous offre des événements heureux, des mains tendues. Et puis, c'est grâce à vous, au final. C'est grâce à vous, parce que vous devenez une personne claire, directe, Alors, bien évidemment, ça n'est pas facile d'affronter la vie au début sans artifice, parce que les artifices, bien évidemment, on les prend pour souvent pour se stimuler, hein, pour affronter une réalité qui est trop dure. Mais finalement, on s'aperçoit que cette réalité, elle est beaucoup plus facile à affronter sans rien. Mais il faut en prendre l'habitude. Il faut en prendre l'habitude.
Moi, ça m'a donné une pêche. J'arrête pas. Je bricole, je ressors, je reste plus dans mon lit. Je suis un autre. Enfin, quand je dis à mon médecin, je suis un autre homme, il me dit non, vous êtes l'homme que vous devriez être sans alcool. En fait.
Ouais, vous vous êtes rencontré. Quelque part, vous vous êtes rencontré.
Voilà. C'est ça.
Et oui. C'est bon hein, de faire sa propre rencontre, hein, quand même.
Ah ouais. C'est excellent. Même.
Puis vous êtes dans une belle région. Bagnères de Bigorre, c'est ça?
Bagnères de Bigorre, oui.
Bagnères de Bigorre.
C'est la région qu'on appelle le département. On est les Bigourdans.
Les Bigourdans.
Ouais, dans. Bigourdans.
Bigourdans, d'accord.
Ouais.
Bon.
Et voilà. Mais d'ailleurs, si y a des gens dans le 65 ou aux environs ont besoin de me parler, vous pouvez leur donner mon numéro de téléphone.
D'accord, d'accord.
Je serai là pour les aider et les aiguiller, pour leur dire que je suis une preuve vivante, que ça peut marcher. Mm-hmm.
Et vous savez,
et, quoi leur dire.
Vous qui nous écoutez, vous qui nous écoutez, chers amis, c'est très important ce que dit Lionel, lorsqu'on veut se sortir de l'addiction, et là, je parle de n'importe quelle addiction, même comme Farid, l'autre jour, nous parlait de cette addiction aux médicaments, aux benzos, eh bien, c'est très important ce que Lionel dit. Il faut vraiment prendre conscience qu'on ne s'en sort jamais tout seul. C'est impossible de s'en sortir tout seul. Alors, il faut commencer à s'appuyer sur celles et ceux qui vous tendent la main et vous proposent leur aide et vont vous montrer un petit peu le chemin que eux-mêmes ont pris avant vous et qui les a menés à la sobriété, à être abstinent, parce que c'est possible d'être abstinent, c'est possible. Donc, aujourd'hui, c'est encore un message très lumineux que vous nous livrez, Lionel, et pour cela, je vous remercie beaucoup. Ne manque plus que vous rencontriez une nouvelle femme dans votre vie, et puis voilà,
ouais, chose... Ça, on va attendre un petit peu.
Oui, attendez, voilà, il ne faut pas se presser.
Je pense que ça viendra tout seul.
Bon.
Et voilà, si vous voulez donner mon numéro, n'hésitez pas.
On le donnera, avec plaisir. On le donnera.
Vous avez... Florian.
Oui,
génial.
Il vous écoute. Et il y a beaucoup de SMS pour vous. Gaëtan, Irène, Sabrina, Eric, Patrick, Hélène, qui vous félicite, Lionel, pour votre témoignage et pour votre combat gagné. Passez une bonne soirée et puis n'hésitez pas à me redonner des nouvelles. Hein, vous connaissez le chemin maintenant, d'accord?
Merci de m'avoir écouté, Olivier.
Mais je vous en prie. Et puis j'en profite pour saluer tous les gens qui habitent votre belle région de Bagnères de Bigorre.
Merci.
Bonsoir Lionel.
Merci pour les Hautes-Pyrénées, c'est sympa. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Merci beaucoup.
Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.